Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à un retour d'expérience sur les projets de valorisation de la data dans les établissements de soins et les établissements hospitaliers. Alors rapidement pour commencer, une petite introduction. Évidemment, la donnée et ses multiples applications, donc des reportings, des analyses et maintenant beaucoup d'intelligence artificielle dont on entend parler dans la presse, transforme en profondeur toutes les organisations de la société. Et bien sûr, les établissements hospitaliers et de soins ne passent pas à côté. Donc, après avoir connu une période de digitalisation forte, où on a quasiment fait disparaître le papier, toutes les données et l'information sont représentées dans les data. Et donc, il est venu l'heure de valoriser ces data pour améliorer, si possible, le fonctionnement des organisations. Alors, en particulier, dans les établissements de soins et les établissements hospitaliers, où l'environnement est particulièrement complexe. Alors, on sait que les systèmes d'information sont très nombreux, il y avait souvent un legacy, et ce ne sont pas souvent ces systèmes d'information qui sont les premiers leviers d'investissement des établissements. On a également des contraintes réglementaires multiples, au-delà des contraintes que toutes les organisations connaissent sur la CNIL et le RGPD. La donnée de santé est une donnée éminemment sensible. Et donc, il y a également d'autres contraintes à prendre en compte. Il y a également au sein des organisations hospitalières et des organisations de soins des compétences très diverses et très variées. Il y a une population déjà très éduquée aux environnements digitaux, mais également des populations plus habituées à des tâches manuelles et beaucoup de tâches évidemment très techniques. Donc, à des besoins de gouvernance autour des sujets de data qui sont très importants. Ceci dit, les opportunités de valorisation de la donnée sont très nombreuses et on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux pour avoir des projets de qualité à valoriser la donnée. Alors, les objectifs de ces projets peuvent être très variés, j'en citerai quelques-uns. Évidemment, le premier, ce que tout le monde recherche, c'est l'amélioration de la prise en charge des patients et des familles ou des proches des patients. On peut aussi vouloir davantage de communication, un meilleur suivi de cette prise en charge, parfois temps réel dans les systèmes, et puis partage des informations évidemment avec le patient et famille. On peut avoir également des objectifs pour améliorer la performance opérationnelle des équipes dans ces organisations, faciliter la gestion des plannings, faciliter le passage d'informations d'une équipe à une autre. Objectiver aussi également les résultats opérationnels pour que tout le monde sache si on a été bon ou moins bon à certains moments et comprendre pourquoi. Et puis on a également l'opportunité de faciliter les interactions avec l'ensemble des parties prenantes dans le parcours de soins. Hein, les établissements de soins et établissements de santé sont un des éléments dans un parcours de soins qui commence bien avant. Et puis qui peut se prolonger bien après, notamment à la maison. Et donc tout ça, grâce à la meilleure valorisation de la donnée, on peut concevoir des outils d'automatisation qui facilitent et allègent la charge de chacun. Alors les bénéfices attendus peuvent être très nombreux. Alors, bien sûr, une meilleure qualité des soins, mais pas seulement des soins, mais tout simplement des services qui peuvent être proposés dans les organisations à destination des patients. Évidemment, du coup, une meilleure expérience patient, où on imagine que l'information peut être voilà, présentée et partagée plus facilement. Et il y a aussi, et c'est très important, une meilleure expérience collaborateur, puisque entre les différentes équipes des établissements, il est important de bien concevoir ces passages de données, d'informations entre une équipe et une autre. Et souvent, ça facilite parce qu'on peut avoir sous la main l'information dont on a besoin au moment précis et la bonne information. Alors évidemment, nos responsables publics et politiques se sont saisis du sujet depuis plusieurs années et ont entamé un certain nombre de dispositifs pour développer le numérique et notamment la data dans les hôpitaux. Donc, on peut parler de la feuille de route ministérielle du numérique en santé avec l'accélération dans le virage numérique. Donc, ça, c'était les années 2018 à 2022. Et puis maintenant, la feuille de route est plutôt sur le mettre le numérique au service de la santé. Donc, on était à la digitalisation ces dernières années et maintenant sur la valorisation de ces data. Et ça va durer jusqu'à l'année 2027. Alors, l'État a promis 2 milliards d'euros dans le Ségur de la santé, avec un volet numérique autour de 600 millions d'euros pour le médico-social, avec une promesse de modernisation sur l'interopérabilité et la sécurité des systèmes d'information de santé. Programme qui va se dérouler, qui se déroule déjà et qui va durer jusqu'à 2025. Il y a également beaucoup d'initiatives locales. On peut par exemple citer le Paris Santé Campus, le berceau numérique en santé, etc., avec à chaque fois des dotations intéressantes et des programmes qui peuvent durer plusieurs années. Donc, il y a une stratégie d'accélération, hein, le grand programme santé numérique, pour faire, c'est la volonté publique, de la France un des leaders dans le domaine de la numérique en santé. Voilà, il y a également plein de plans de dispositifs médicaux, mais voilà, si vous voulez plus de détails, on sera ravis de vous les détailler et on y reviendra plus tard. Alors maintenant, la question est, qu'en est-il du quotidien pour les équipes des établissements hospitaliers qui cherchent à valoriser cette donnée, à moderniser et innover dans les métiers pour l'ensemble des collaborateurs et donc des patients. Pour adresser ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir une équipe autour de la table où je vais laisser chacune des personnes se présenter. Nous avons des collaborateurs de l'hôpital de Chalon-sur-Saône et également des collaborateurs de la société DataTJ. Et je vais laisser Stéphane Kirsch commencer par se présenter avec accompagné de Alexandre Benoît. Stéphane, tu es micro coupé.
Bonjour à toutes et tous, merci Marc. Je m'appelle donc Stéphane Kirsch, je suis directeur des technologies de la santé pour le groupement hospitalier Nord-Saône-et-Loire et c'est le résultat en fait de la fusion entre la direction biomédicale et informatique.
Bonjour, moi je m'appelle Alexandre Benoît, je suis ingénieur clinique. J'ai un passé d'infirmier anesthésiste et ingénieur biomédical et je suis chargé du développement de l'ingénierie clinique sur le GHT Nord-Saône-et-Loire.
Et donc nos amis de DataTJ.
Bonjour, je m'appelle Saïd Maklouf, je suis chef de projet spécialisé dans le domaine de la santé et aussi data scientist sur DataTJ. J'accompagne notamment les projets d'intégration de la plateforme Papaye, coproduit avec des hôpitaux, notamment comme celui de Chalon-sur-Saône. Et bonjour à tous, moi je suis Thibault Isassian, je suis chef du produit Papaye. J'ai un parcours d'ingénieur en informatique et d'architecte data. Je m'occupe du développement de cette plateforme d'industrialisation de projets data qui permet de soutenir différents cas d'usage et en particulier dans le domaine de la santé.
Merci à tous. Et donc, pour finir le tour de table, côté PwC, nous avons donc Christopher Sirio.
Christopher Sirio, je suis consultant chez PwC, je suis spécialisé dans la santé et dans les systèmes d'information hospitaliers. Donc moi, je suis intervenu sur plusieurs grands projets liés au SI, au CIH et à l'interopérabilité dans les différents établissements publics ou privés.
Voilà, et donc moi-même, je suis Marc Damès-Fontaine, je suis directeur des sujets data. Et en particulier pour les industries de santé chez PwC. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les sujets en particulier de data science, mais pas seulement, et aussi les sujets de data stratégie et data gouvernance. Et j'accompagne les organisations et donc les organisations de santé également dans la mise en place de leurs projets et de développement de la compétence data dans les établissements. Alors pour commencer ce webinaire, l'idée c'est d'avoir une session d'échange avec nos amis de Chalon-sur-Saône, puisqu'ils ont eu, je crois, le plaisir ces derniers mois de faire un projet important pour la structure autour de la valorisation de données. Donc vous comprendrez que ce projet a également intégré des technologies comme DataTJ qu'on détaillera un peu plus tard. Et puis, à la suite de ça, on détaillera également voilà, les méthodologies de projet et également les modalités de financement. Alors d'abord, Alexandre et Stéphane, première question pour vous. Donc Stéphane, comment est née l'idée de ce projet?
Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce projet, très concrètement. Deux éléments de contexte. Un premier se situe en 2019 avec un retour d'expérience de notre commission des urgences vitales de notre établissement qui fait la preuve qu'un certain nombre de décès sont évitables dans les étages à partir du moment où on pourrait anticiper la situation et la dégradation donc, de l'état de santé du patient. À ce moment-là, on décide d'établir un certain nombre, je dirais, de stratégies et d'actions, en tout cas, pour répondre à cette question. Mais très vite, on se retrouve dans la situation du Covid et on se situe en 2020. Et là, en fait, les effets sont, je dirais, accentués puisqu'on se retrouve avec des patients relativement lourds dans les services d'étage, au-delà de la filière des soins critiques et des soins critiques, services et plateaux critiques. Finalement, les équipes qui n'avaient pas forcément l'habitude de prendre en charge des patients lourds se retrouvent dans une situation où à la fois leur charge physique et mentale augmente et finalement, les organisations ne sont pas toujours, je dirais, prêtes à y répondre. Alors, au-delà des aspects de formation à l'accueil et à la prise en charge de ces patients. Donc, à la fois, on s'interroge sur l'amélioration de la prise en charge du patient et comment on peut sécuriser le soin et sécuriser le soignant dans sa prise en charge du patient. Et c'est là où on se dit que la technologie peut-être peut apporter des éléments de réponse. On s'attache à faire l'analyse un peu de la situation au niveau mondial. Différentes expériences, études nous montrent que la technologie peut effectivement accompagner ce genre de prise en charge et d'améliorer finalement de la situation de l'exercice professionnel. Et c'est à partir de là où on se tourne vers la technologie. Sauf qu'on le sait, et ça a été dit en introduction, à chaque fois que l'on met en place une nouvelle technologie dans une organisation, justement, on parle d'organisation, de transformation de l'organisation. Ça change forcément le mode de management, finalement, des équipes. Mais on va aussi sur des questions d'accompagnement, formation, finalement, des professionnels à l'usage des technologies, ce qui nous renvoie à la question de la formation initiale, mais également de la formation continue à l'usage de ces technologies. Et à partir de là, on s'interroge sur les usages, où ça commence, où ça s'arrête, toutes les spécialités ou pas. Et donc, petit à petit, on rentre dans une organisation qui appelle à ce qu'un ensemble de professionnels se réunissent et réfléchissent à comment, finalement, on peut intégrer cette nouvelle technologie dans l'amélioration de la prise en charge de nos patients à tous les étages. Alors, c'est là qu'est née, finalement, l'idée de ce qu'on va appeler très rapidement chez nous le soignant augmenté, un patient, un lit, un moniteur de surveillance, projet extrêmement ambitieux qui nécessitait effectivement des accompagnements au-delà organisationnels, financiers, et qui nous a amené très rapidement aussi à se tourner finalement vers différents opérateurs, dont la région, dont l'Agence régionale de santé, au-delà des programmes nationaux, pour pouvoir se faire accompagner financièrement sur ce projet relativement ambitieux.
Eh bien, donc on comprend des enjeux très, très importants, hein. Éviter des décès dans les établissements, faire face à des épidémies et tout un tas de questions sur les organisations et le besoin de formation, effectivement. Et donc, l'idée de ce projet qui naît clairement du besoin de métier. Hein. On ne parle pas de besoin utilisateur, on parle de vraiment les métiers qui ont des besoins de changement et donc la technologie qui pourrait arriver. Alors, du coup, voilà, dans le domaine médical, on sait qu'en particulier, la sensitivité et la spécificité sont des critères de qualité très importants. Il s'agit d'avoir des recommandations hein, qui soient toujours pertinentes ou au moins des partages d'informations qui soient les bonnes. Donc, ma question est peut-être pour Alexandre, quelle démarche avez-vous entrepris pour sécuriser la bonne performance de la technologie ?
Alors, en fait, à la base, on s'est appuyé sur une technologie qui était déjà éprouvée, où il y a beaucoup de revues de littérature sur l'utilisation des early warning scores. Donc, ces scores, en fait, qui sont agrégés, des scores qui agrègent des paramètres vitaux. Donc, on va utiliser les moniteurs qu'on a mis derrière chaque patient. On va agréger ces scores. Et au lieu d'avoir des signaux faibles, l'agrégation des signaux faibles fait un signal fort. Donc, ça, c'est très sensible, c'est mais par contre, peu spécifique. Donc, l'idée a été de travailler avec les cliniciens pour se dire, mais comment on peut répondre à des cas d'usage. Donc, on s'est interrogé, par exemple, sur l'anticipation de la dégradation des patients atteints de Covid, l'anticipation de la dégradation des patients qui avaient, par exemple, qui arrivaient aux urgences pour... j'y arrive plus. Qui ont une dégradation, par exemple, sur...
Un autre symptôme, quoi.
Un autre symptôme. Enfin, plutôt soit chirurgical, soit médical, par exemple. Et donc, l'idée, c'était de se dire, on a ces paramètres vitaux, on va aller chercher d'autres paramètres, d'autres signes dans la biologie, dans la radiologie, ou même à la limite dans le dossier médical. Et puis, quand on agrège tous ces paramètres, bah, on va transmettre une information directement dans la poche du soignant en lui disant, attention, ce patient-là, il a un risque de se dégrader dans les prochaines heures. C'est un intérêt majeur dans le cadre aussi de la modification de la démographie des patients qui sont... À l'intérieur de patients sont de plus en plus âgés dans nos services, ils sont de plus en plus polypathologiques, donc en fait ils sont de plus en plus lourds à prendre en charge, ce qui fait qu'il y a une surcharge de travail pour nos équipes de soins. Ces équipes de soins, comment on peut faire pour diminuer leur charge mentale et se dire que le patient qui est en train de se dégrader dans la chambre 220, étant donné que l'infirmière commence son tour dans la chambre 201, il faudrait qu'elle aille de façon adaptée dans la chambre 220 avant de faire toutes les chambres. Et le signal qui lui est envoyé dans la poche va lui permettre d'organiser son travail et de diminuer sa charge mentale. Voilà, ça c'est un premier effet, diminution de la charge mentale. Forcément, on va augmenter la qualité et la sécurité des soins. Il faut savoir qu'en fait, la majorité des événements indésirables graves, c'est des événements qui arrivent en nuit profonde, là où il y a de moins en moins de personnel. Par exemple, sur un service de 24 lits, il y a une infirmière, une aide-soignante. Donc, c'est quand même assez difficile. Et puis, troisième élément, et ça, dans toute la littérature qu'on a pu voir, là où on avait mis en place des surveillances un petit peu plus, comme dit, d'étage, un petit peu plus rapprochées, même si ce n'est pas du soins intensifs, eh bien, en fait, on a sécurisé les patients. Et ça, c'est un élément de satisfaction aussi pour ces patients. Donc, pour répondre à votre question, on s'est appuyé sur une technologie existante, le Early Warning Score. On a travaillé avec les praticiens pour connaître quels étaient les signes qui pouvaient être annonciateurs d'une dégradation. Et puis, dans un troisième temps, on va faire une démarche essai-erreur pour améliorer le système.
Ah, merci. Effectivement, donc... très intéressant d'avoir pu déjà identifier dans la littérature et dans la technologie le fait qu'un score existait et qu'il a donné déjà satisfaction dans d'autres contextes. Et donc, l'idée du projet, c'est s'approprier et développer votre outil qui permet d'implémenter ce score et pour soulager la charge mentale des praticiens et puis du coup, bien sûr, améliorer aussi la qualité de soins des patients. Alors aujourd'hui, Alexandre, peut-être est-ce que vous pouvez donner un exemple concret du service que la technologie rend au métier, par exemple?
Alors, là où j'ai bugué tout à l'heure, en fait, on a 6 cas d'usage. Alors, c'est difficile de trouver en fait le cas d'usage qui est le plus adapté. Je crois qu'en fait, le cas d'usage qui est assez parlant, c'est le syndrome occlusif. Pourquoi ? Je vais relater en fait ce que Stéphane évoquait tout à l'heure. Événement indésirable grave sur syndrome occlusif qui se dégrade. Et cette dégradation, en fait, on peut la prédire. Je m'explique. Le patient, il arrive. On sait qu'il a un arrêt des matières et des sels. Ce qu'on craint à l'hôpital, c'est qu'en face, en fait, il fasse une complication qui est lié à de la micro-inhalation ou macro-inhalation. C'est-à-dire qu'en fait, on va inhaler dans les poumons du produit gastrique, donc un produit qui est très acide et puis très contaminant. Donc ça, ça peut s'anticiper. Pourquoi ? On voit que le patient, il a des signes biologiques, en fait, étant donné qu'il a un troisième secteur, c'est-à-dire que l'arrêt des matières et des sels fait qu'il a un syndrome inflammatoire et on a de l'eau plasmatique qui commence à sortir des tissus. Donc, en fait, il a un syndrome de déshydratation, il va avoir une hypotension, il va avoir une tachycardie, il va commencer à avoir une polypnée, il va commencer à avoir une saturation en oxygène qui va diminuer. Et tout ça, en fait, tous ces signes-là, biologiques, radiologiques, avec des signes cliniques, quand on les compile, on peut se dire, ce patient, il a un fort risque de dégradation. Et vu qu'il a un fort risque de dégradation, eh bien, ça permet d'anticiper aussi la prise en charge, de prévenir le chirurgien et de dire il faut peut-être réadapter la prise en charge. Et ça, quand on le met en place, ça évite de la morbidité, ça évite de la mortalité et forcément, ça améliore la qualité et la sécurité de prise en charge et ça diminue aussi notre durée moyenne de séjour à l'hôpital. Donc, l'idée, très simple, c'est de se dire, à partir du moment où on a une suspicion pour syndrome occlusif, on met le patient dans la cohorte des patients qui vont être scopés, qui vont bénéficier de l'IA, et pour améliorer la sécurité et la qualité. Le deuxième truc, et ce qui est très important, c'est qu'en fait, il fallait que nos praticiens puissent avoir un outil avec une forte explicabilité. Vous savez, un médecin, il n'aime pas trop en fait, se confier à une boîte noire. Donc, ce qui nous a intéressé, c'était de se dire, il faut qu'on fasse confiance à une intelligence artificielle qui va permettre d'expliquer pourquoi elle est en train de nous prévenir. Donc, et ça, c'était le deal qu'on avait avec DataTJ. Ça nous a permis aussi, comme le disait Stéphane, de modifier nos organisations. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on couche sur papier que dans tel cas, on met en place tel et tel système, on protocolise. Et donc, ça a été un fort accélérateur de la protocolisation avec un investissement des praticiens pour se dire, là, j'ai un axe de progression, un axe d'amélioration de la qualité, de la sécurité des soins dans mon service. Donc, fort accélérateur. Voilà. Je crois qu'en fait, je vous ai donné à peu près le panel et explicité un des cas qu'on est en train de développer actuellement sur Chalon.
Alors, effectivement, merci, c'est très intéressant. On comprend qu'en fait, grâce à la technologie que vous avez sélectionnée, là, on y reviendra plus tard, mais en fait, ce n'est pas seulement un seul outil, mais plutôt ce qu'on va appeler des cas d'usage qui vont pouvoir se décliner sur différentes populations. Et pour chaque usage, voilà, il faut bien redéfinir le besoin avec le praticien. Et là, vous avez évoqué, je trouve, un sujet qui est vraiment très intéressant sur du coup, coucher sur papier des protocoles médicaux, enfin des protocoles de soins, hein, pour que tout le monde soit bien aligné. Et alors, du coup, une fois qu'on a déjà ça, on aligne les équipes. Hein, ça, c'est indépendamment de la technologie. Il y a quand même un gros gain parce qu'il y a une homogénéisation des pratiques dans les équipes. Mais aussi, la technologie qui, du coup, est au courant, entre guillemets, de ces protocoles, peut proposer des choses avec la data qui est monitorée de façon quasiment automatique. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Et je trouve que la démarche que vous avez fait aussi de travailler avec les praticiens pour essayer de bien comprendre leurs activités et isoler ces cas d'usage, parce que là, vous en avez dit 6, mais j'imagine que dans les ateliers que vous avez conduits, il y en avait beaucoup, beaucoup plus. Donc, il a fallu effectivement les lister, les décrire, et puis quelque part les prioriser. Et alors, on y reviendra un petit peu plus tard, mais la priorisation de ces cas d'usage, ben, ça se fait sur voilà, des contraintes d'industrialisation, enfin ce qu'on va dire de développement, on est capable ou pas de le faire techniquement, et puis aussi de bah, la maturité, est-ce que les métiers sont prêts à utiliser, etc. Mais on y reviendra un peu plus tard. Alors aujourd'hui, du coup, peut-être Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, on a parlé de plein de cas d'usage, aujourd'hui, est-ce que tout ça fonctionne dans votre établissement ?
Vaste sujet, Marc. Très concrètement, je vais essayer de faire ça simplement selon trois niveaux. Vous l'avez compris, en fait, le besoin d'Alexandre aujourd'hui et des soignants, c'est d'agréger un ensemble de données et d'informations. Pour ça, ça nous renvoie immédiatement au sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'enjeu de la donnée, de la disponibilité de la donnée. Donc très vite, nous avons fait le constat qu'on avait une architecture finalement informatique qui était peu ambitieuse, fragile par rapport à nos attentes, à ces premières attentes et à celles qu'on pouvait imaginer dans le futur, là où on nous attend très concrètement sur le plan national. Et donc très vite, nous avons fait le constat que finalement notre architecture informatique était segmentée et qu'il fallait aller vers un système augmenté. Et donc on a, après analyse, et ça a pris quelques mois, hein, ça a pris 4-5 mois, on a fait finalement le constat qu'il fallait revoir notre système d'urbanisation, voilà, du SI. Et donc on est parti non plus sur un empilage ou une organisation en silo de nos applications, mais plutôt sur le besoin, c'est la donnée, et on organise tout autour de la donnée. Peu importe si on répond à toutes les questions d'interopérabilité entre les systèmes, entre les applications, ce qu'il nous faut, c'est la disponibilité de la donnée là où on en a besoin. Et donc, on a repris l'organisation complète de notre architecture. On s'est fait même accompagner sur ces schémas-là pour pouvoir accélérer le pas, parce que l'enjeu, en tout cas, socle de notre organisation informatique était bien celle-ci. Et sans ce socle organisationnel de notre architecture informatique, nous ne pouvons pas aller plus loin. Et je le redis, et j'en profite pour le dire, nous avons beaucoup de plans nationaux qui nous emmènent sur des projets ambitieux, mais la question de nous accompagner sur le socle de base reste un enjeu majeur, extrêmement important, qu'il faut absolument faire remonter auprès de nos autorités. Le deuxième versant, c'était celui finalement de comment on allait, à partir d'une architecture qui allait nous permettre de mettre à disposition finalement la donnée, comment nous allions nous organiser. Et je vous le disais tout à l'heure en introduction, on a rapproché les organisations informatiques et biomédicales. Ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement aussi pour créer de l'efficacité organisationnelle à l'intérieur de l'hôpital et que finalement, on puisse faire bénéficier à l'ensemble de nos soignants d'interlocuteurs qui pouvaient répondre à l'ensemble des questions qui allaient correspondre à la mise en place de cette nouvelle technologie au sein des services. Les questions cliniques, mais évidemment les questions plus techniques. Et donc, on est passé d'une urbanisation augmentée à une organisation augmentée et qui nous a renvoyé très rapidement aussi au rôle dont doivent avoir également les établissements de santé à la matière, c'est-à-dire aussi des incubateurs autour de nouvelles technologies et qu'il est important de co-développer à la fois avec les partenaires industriels, avec les professionnels de santé et toutes ces directions support qui sont disponibles dans les établissements de santé. Donc oui, ça marche, mais ça n'a pas marché, je dirais, du jour au lendemain. Ça marche parce que pendant des mois, on s'est donné le moyen de transformer à la fois notre organisation, à la fois notre schéma finalement informatique, notre architecture informatique, notre urbanisation du système, mais également s'est donné la capacité d'ouvrir les portes à des industriels qui permettaient finalement collectivement de réfléchir à répondre à l'ensemble de nos besoins sans finalement se fermer les portes à toute solution qui pouvait en tout cas y répondre assez facilement. Et là, en fait, ça renvoie vraiment aussi au rôle que peut avoir à la fois les CHU, mais également les établissements de notre taille, ou en tout cas à l'échelle d'un GHT, dans effectivement le déploiement collectif, en tout cas de nouvelles solutions.
Alors effectivement, beaucoup de sujets que vous évoquez là, c'est, je trouve que c'est très intéressant. L'ambition de vouloir utiliser la technologie est là. Tous les sujets sont identifiés. Et on se rend même compte que, voilà, comme on le disait tout à l'heure, les sponsors de ce type d'initiative sont également volontaires, mais on est face à un sujet, pour commencer, hein, comme vous l'avez dit, l'historique. Hein, l'historique qui fait que les systèmes d'information sont très silotés. Et donc, voilà, et pour valoriser cette data qui est présente dans chacun de ces silos, voilà, il faut réfléchir à l'urbanisme. Et alors du coup, qui dit nouvel urbanisme, dit aussi nouvelle organisation. Je crois qu'il y a notamment un sujet que vous avez réintégré et quelque part augmenté aussi, c'est le sujet du consentement hein, qui est nécessaire. Et alors du coup, ça me permet d'arriver au prochain sujet qui est, voilà, maintenant qu'on arrive quelque part à faire quelque chose avec tout ce SIH, et qu'on arrive à quelque part valoriser les données qui sont là, comment on appréhende les contraintes réglementaires et notamment la fameuse certification CE médicale. J'imagine que Stéphane, vous avez des discussions importantes avec le DPO et le RSSI.
Oui, absolument. Et c'est dans ce cadre que je voulais aussi introduire la question du e-consentement. C'est vrai qu'il n'est pas question, quand on approche ces nouvelles organisations, en tout cas ces nouvelles solutions technologiques, de faire à la fois l'économie de l'éthique et puis l'économie de la sécurité informatique. Et le e-consentement, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place dans le cadre de la nouvelle urbanisation de notre système pour simplifier effectivement l'accord du patient et puis accompagner finalement nos collègues de la recherche clinique hein, qui nous accompagnent sur ces projets aussi. Hein. C'est un schéma qui est global, hein, ça implique énormément de professionnels autour de ces projets, de pouvoir effectivement nous permettre ou pas d'exploiter l'ensemble des données des patients. Donc le e-consentement est venu assez naturellement dans notre organisation, mais elle est venue aussi parce qu'on a beaucoup dialogué avec le DPO, avec notre RSSI, et que finalement une des portes d'entrée aussi du projet, était celui de la sécurité informatique. Voilà. Est-ce qu'on était effectivement, est-ce qu'on répondait finalement au cadre réglementaire en matière de données de santé, données patients, sur l'utilisation et l'exploitation de ces données, et puis évidemment sur tous les aspects de sécurisation du système, hors de question d'ouvrir de nouvelles failles dans notre système. Donc, après, je dirais l'ensemble de ces validations, qui ne restent pas une fin en soi, hein, parce qu'à chaque fois que vous passez une étape, c'est important de revalider à chaque fois chaque étape du projet avec ses interlocuteurs, on a pu aller un petit peu plus loin. Mais ce qui a été également extrêmement important de bien requalifier, c'était aussi que au travers de ce système, on traitait une alarme secondaire. Voilà, on ne prend pas une décision autour d'une alarme secondaire. C'est un élément qui va vous accompagner dans votre prise de décision, mais en aucun cas, je prends la décision par rapport à cette alarme secondaire. Donc, c'était important aussi de repositionner en quoi la technologie apportait une information et ne pas non plus tomber, dans l'effet inverse ou se dire on se repose uniquement sur la technologie. Voilà. Les aspects cliniques restent extrêmement prégnants. Tout à l'heure, Alexandre parlait de protocole. À un moment ou à un autre, la techno, elle intervient dans le protocole, mais je dirais que ce n'est pas une fin en soi. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça veut dire que derrière, il y a tout un aspect éducation des professionnels à l'usage de cette technologie et à l'appréhension de cette nouvelle technologie. Voilà, on continue de regarder le patient.
Habilitation.
Et ça renvoie à la question de l'habilitation. C'est d'ailleurs qu'on n'est plus sur une information à l'usage d'un dispositif, on est sur « je suis formé, je suis évalué et je suis habilité à l'usage ». Et c'est là où, en fait, rentre aussi toute la construction des protocoles cliniques avec l'ensemble des chefs de service, et que derrière, nous, d'un point de vue technologique, à chaque fois qu'il y a un nouveau cas d'usage, il y a aussi cette notion de certification, validation, de la chaîne de prise en charge de la donnée, de la distribution de la donnée avec les aspects de CE médical. Donc là, il y a un aller-retour permanent qui se construit entre les partenaires industriels, les certificateurs, et tout le monde joue un rôle extrêmement important dans la chaîne, puisqu'il n'est pas question de mettre en place des systèmes qui, en tout cas, ne se conformeraient pas à cette réglementation, qui a d'ailleurs été très appuyée ces derniers temps dans le cadre du référentiel réglementaire européen 2017-745-746. Ce sont des éléments qui parleront à l'ensemble de nos collègues. Donc, à chaque fois qu'on fait finalement un nouveau cas d'usage, on analyse, on passe en revue effectivement à la fois risque, les bénéfices-risques, de chaque situation. Et à partir de là, on teste, on forme, on corrige, et finalement, on rentre dans une chaîne en fait, qui nous permet en permanence de faire évoluer le système en s'assurant que finalement, on répond bien à la fois à la qualité de prise en charge finalement clinique du patient, mais que nous, dans le même temps, on répond aussi à tous les aspects réglementaires et obligations de validation, certification de tout ce que l'on met en place. Voilà, on se fait pas juste plaisir, mais on rentre dans un cadre réglementaire qui est évidemment nécessaire, qui renvoie à la question de la sécurité informatique et de l'éthique vis-à-vis des données.
Et alors, du coup, je comprends que l'objectif là, que vous poursuivez, c'est donc de marquer CE médical chacun des cas d'usage. Et alors quoi, une fois qu'on a obtenu le marquage, c'est bon, on peut faire dérouler le cas d'usage ?
Non. On est en permanence dans une réévaluation, l'analyse du bénéfice-risque, on corrige et on fait évoluer en fait le système. Il y a un système de deep learning qui se met en place, en fait, à la fois du côté de la machine et à la fois du côté des professionnels. Voilà. Et je le redis, ça mobilise un ensemble de professionnels. Vous l'avez compris, l'informatique, le biomédical, la recherche clinique, les professionnels soignants, toutes celles et ceux qui vont participer à la sécurité informatique, toutes celles et ceux qui vont participer à la sécurité des données, toutes celles et ceux qui vont participer à l'habilitation, formation des professionnels. Et donc, ça nous renvoie quand même à une notion qui est la notion de la difficulté d'innover aussi dans nos structures. Voilà. Nous, on a la chance d'avoir une organisation et la confiance d'une direction générale et même à gérer à l'échelle du GHT qui nous autorise à mettre ces nouvelles organisations en place. Aujourd'hui, à l'informatique, vous avez du temps médical, vous avez du temps soignant, vous avez du temps de recherche clinique. C'est partagé avec le biomédical et l'informatique. Tout ça fait qu'aujourd'hui, ça représente plus de 80 personnes qui sont au service, finalement, de l'usage des technologies et du numérique dans nos secteurs de soins. Mais ce n'est pas le cas partout. Et faire rentrer aujourd'hui des nouvelles sociétés pour réfléchir à ces cas d'usage et voir comment on peut y répondre collectivement avec une démarche co-constructive, reste quelque chose de difficilement atteignable dans nos structures par manque de financement, par manque de moyens RH et toutes les raisons que l'on connaît aujourd'hui. Par contre, indéniablement, une fois que c'est en place et une fois que finalement ce cercle vertueux se met en place. C'est extrêmement attractif pour nos structures. Vaste sujet aujourd'hui également dans nos établissements de santé.
Merci beaucoup. Alors peut-être juste pour apporter une légère précision. Donc, je comprends que voilà, vous avez réussi à mobiliser toutes les équipes et bravo. Vous avez réussi également à convaincre la direction de l'hôpital et bravo. Je pense que vous êtes dans une démarche qui est très, très, très difficile à obtenir et qui en même temps est très satisfaisante. Et alors, du coup, une fois que vous avez réuni tous les acteurs, il a fallu trouver des fonds. Alors, vous avez toqué à quelle porte et concrètement, votre projet, il est financé comment ?
Donc, notre projet est financé aujourd'hui par la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est le principal financeur. Après, l'agence régionale de santé nous a accompagnés sur la partie RH et nous bénéficions aussi de fonds européens. Et il est vrai que de toute manière, même si l'ensemble des professionnels et la direction générale étaient convaincus de l'intérêt et du projet, au regard du coût global en tout cas de la solution et en tout cas l'objectif qu'on s'était atteint d'avoir en tout cas avec cette solution, si on n'avait pas bénéficié de financement externe, nous n'aurions pas pu en matière d'autofinancement pouvoir gérer ce projet en interne. Donc région, agence régionale de santé, fonds européens et j'ai envie de dire on tapera autant que besoin à toutes les portes pour pouvoir accompagner ce projet dans la durée parce que on parle d'un projet qui dure depuis maintenant 2 ans. Il continue, d'évoluer, de se construire. On est sur des processus correctifs et on est parti encore pour quelques années.
Les étapes, il reste encore 2 étapes à faire. Aujourd'hui, on a l'environnement chalonnais. Demain, on aura l'environnement du GHT. Et après-demain, en fait, on va se tourner vers la ville. Pourquoi ? C'est l'hôpital hors des murs. Et c'est la surveillance des patients à domicile et ça va être de la prédiction de l'état de dégradation du patient, insuffisant cardiaque, insuffisant respiratoire, insuffisant rénal. Voilà. Et donc, de prévenir cette dégradation, ils vont revenir à l'hôpital, adaptation du traitement et éviter d'avoir des patients qui arrivent moribonds aux urgences à 2h du matin.
Alors, bravo encore pour ce projet qui est vraiment remarquable. Alors, du coup… je comprends que pour le réaliser, vous avez eu besoin de partenaires et notamment de partenaires technologiques. Et donc, on en vient à la solution technologique qui est développée par DataTJ, donc une solution qui s'appelle Papaye. Et donc, on va maintenant laisser la parole à Thibaut et Seif qui vont pouvoir nous présenter d'une part la solution de la stratégie et également voilà, comment concrètement la donnée se retrouve sur une plateforme et comment elle est valorisée.
Donc, merci Marc. Comme ce que vous tous avez évoqué précédemment, les hôpitaux encourent plein de challenges, une multitude de contraintes concernant l'intégration donc, du numérique en santé, notamment pour le cadre de projet data. Et c'est pour cela que, en tant que société spécialisée dans la data, nous devons donc, apporter et accompagner les personnes qui travaillent donc, dans ces établissements de santé pour pouvoir intégrer ces projets data, notamment dans notre cas avec le CH de Chalon qui nous ont contactés afin de pouvoir mettre en place donc, un système de DIA permettant prédire l'état de gravité du patient et aussi d'améliorer aussi les conditions de travail des soignants. Comme ce qu'avaient évoqué tout à l'heure Alex et Stéphane, ils ont relevé vraiment l'utilité d'utiliser cette donnée qui est malgré tout non structurée, éparpillée dans plein de sources différentes mais qui ne sont pas concaténées, etc., pour pouvoir les agréger et en répondre à leurs besoins donc métiers qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement. C'est ainsi que donc, le projet dont on se base à ces différentes problématiques-là, donc, notamment répondre efficacement aux besoins de la santé de la population, qu'il s'agit donc des soins de routine classiques, mais aussi dans le cadre de situations exceptionnelles telles que qu'on connaît avec le Covid dernièrement, mais aussi tout en restant avec une certaine qualité de soins plutôt correct. Mais aussi, sans oublier la partie patient, mais il faut penser aussi à la partie donc, soignant, où là, on focalise aussi sur l'organisation du travail, qui permettrait notamment d'augmenter la productivité, mais aussi une meilleure gestion du personnel soignant. Ajouter à cela la charge psychologique qui est vraiment très importante pour les soignants, notamment dans les services de réanimation, par exemple, dans le cas du Covid, comme on a pu voir notamment, où là, la charge psychologique était assez importante, ce qui affecte aussi leur performance dans les soins. Et enfin, comme ce qu'on avait évoqué précédemment, le fait de détecter des signaux forts, puisque le fait qu'il y ait beaucoup de données, mais aussi des signaux faibles, ne permet pas de donner un certain aide à la décision à ces soignants-là pour pouvoir décider du traitement donné à certains de ces patients-là. Et donc, à travers ces différentes problématiques-là, qui ont été remontées donc, par les cliniciens de l'hôpital à travers donc, Alex et Stéphane, on a pu atteindre, donc, à élaborer des cas d'usage concrets qui permettent donc de vraiment mettre le socle de base du projet et de savoir quels sont les objectifs à atteindre, comme le cas d'usage de syndrome occlusif. Et donc, on a élaboré avec eux donc, la solution suivante pour améliorer donc, le parcours patient à l'hôpital, mais aussi diminuer la charge des patients. Où là, on prend donc, concrètement les données patients. Donc, les données patients, ils sont où notamment? C'est dans plein de sources différentes. Donc, d'abord, le cas du DPI avec le dossier de service de réanimation, par exemple, qui relève donc, des informations avec des comptes rendus de médecins, mais aussi des antécédents médicaux, etc., qui peuvent être importants à connaître et qui peuvent être une source indicateur de ce que les patients en cours, mais aussi des dispositifs médicaux, notamment ceux de monitoring, qui sont au pied du patient et qui relèvent des informations très, très importantes, notamment donc, les constantes vitales telles que la fréquence cardiaque, la pression artérielle, et la SPO2 notamment, sans oublier bien sûr les données donc, biologiques issues d'analyses de sang parvenues par le CIL, et enfin les données d'imagerie de scanner, d'IRM venant du PACS. Et à travers ces différentes sources de données, ce qu'on va faire concrètement, c'est de concaténer toutes ces informations-là sous un entrepôt de données qui sera centralisé donc, et structuré au format exigé, donc notamment sous format HL7 Fire, qui est très utilisé et qui permet d'assurer une certaine interopérabilité, et en fait, de pouvoir connecter donc, cet entrepôt de données de santé vers notre plateforme PAPAI. Et c'est là que toute la partie IA va se focaliser. Donc, c'est sur la partie PAPAI où là, on va modéliser un système d'IA permettant de pouvoir prédire l'état de gravité du patient sous forme d'un scoring et qui sera aussi interprétable, permettant d'aider les soignants à prendre une décision concernant le patient en question. Et donc, après cette phase donc, de test, comme ce qu'avait évoqué Alexandre plus tôt, cela va être déployé au sein des serveurs donc de l'hôpital pour être ensuite interfacé avec le système qui est utilisé dans l'hôpital pour pouvoir donner accès aux patients et aussi aux soignants des informations utiles permettant d'aider à la décision et améliorer donc, leurs conditions de travail, mais aussi d'augmenter leur temps de disponibilité, la baisse des alarmes fatigue et aussi du côté patient, de diminuer le temps de séjour, le taux de comorbidité et bien sûr certains indicateurs donc, pour intercepter et anticiper s'il y a un cas qui va devenir plus plutôt grave. Et donc, tout cela amène à certains plus-values pour répondre à ces besoins métiers-là, notamment donc la reproductibilité, puisque, comme ce qu'avaient évoqué plutôt Alex et Stéphane, la première étape est d'abord focalisée notamment sur l'hôpital, mais ensuite sur le groupement territorial, sur le GHT, et enfin, qu'on pourrait reproduire cela sur un niveau régional, voire national avec d'autres CH. Mais aussi l'interprétabilité du résultat pour éviter donc, cet effet black box évoqué plus tôt et permettre d'avoir une certaine visibilité aux soignants du résultat obtenu et de décider si c'est convaincant ou pas. Et enfin, donc la mutualisation donc la connaissance, puisqu'on va regrouper donc ces différentes données sous un même socle et de pouvoir utiliser de manière concrète et d'obtenir un résultat satisfaisant pour tous. Voilà. Et donc, je vous laisse donc avec Thibaut qui va vous présenter donc sur le produit Papaye.
Effectivement, donc, très rapidement, hein, l'objectif aujourd'hui, donc effectivement, c'est d'illustrer la manière dont notre produit, qui est un produit générique, hein, qui permet d'industrialiser des projets data de manière agnostique, s'adosse et permet d'adresser justement les problématiques évoquées par Stéphane et Alexandre et également par Seif à l'instant. Donc l'objectif de notre produit, c'est premièrement de répondre aux triptyques, bien évidemment, de s'adosser à une organisation urbanisée de la donnée, également donc, de pouvoir être un outil qui permet de traiter les cas d'usage de manière collaborative et donc d'être également cette synthèse de connaissances et cette interface de dialogue pour créer des synergies entre le métier et la science de la donnée et les data sciences. Et in fine, bien évidemment, pouvoir adresser de manière technologique et de fluidifier finalement la réponse au cas d'usage. Donc une réponse au cas d'usage d'un point de vue data, ça va être une collecte de sources hétérogènes, donc ça a été bien évoqué par l'ensemble des intervenants, que ce soit donc de l'IoT, que ce soit des entrepôts de données plus ou moins silotés, que ce soit exactement toute typologie de données disponibles dans le SI, et toujours bien évidemment de pouvoir récolter cette donnée, de pouvoir la traiter en conformité avec les différentes règles du milieu. Et bien sûr, on va aussi également s'inscrire dans ce que Stéphane évoquait sur la partie finalement dialogue, hein, donc sur la partie très agile de cette itération, de ce ping-pong entre le métier et l'IA. Donc ça, ça va être facilité par notre outil puisque on va être majoritairement no code. Donc ça, c'est un biais qu'on essaye de retirer. C'est la dépendance du machine learning, de l'intelligence artificielle, à du code. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir des interfaces ergonomiques claires et que le métier peut manipuler en toute autonomie. Pour conclure, finalement, on pourrait évoquer la possibilité avec notre produit de gérer l'ensemble du cycle de vie du projet data. Hein, donc, comme je disais, de la collecte jusqu'à la modélisation et un point très important, jusqu'à sa mise en production. La mise en production du machine learning propose différentes problématiques. Par exemple, tout simplement le suivi de la performance et également la possibilité d'exposer le modèle produit à différents services, que ce soit par exemple, comme le présentait Seif, un terminal qui va être, lui, mis dans la main des métiers. Hein, donc, ça soit, on pourrait penser par exemple, même à une application mobile hein, ou à un dashboard exposé sur une interface web, etc. Voilà, cette disponibilité de l'IA, c'est très important. Et bien évidemment, dans la partie d'industrialisation, on a aussi le suivi de la performance. Et ça, on va nécessiter de l'automatisation, c'est-à-dire être capable de détecter, de lever des alertes sur une baisse de performance d'un modèle mis en production et de déclencher tout un tas de processus, comme par exemple un réentraînement, comme par exemple une actualisation des données ou un système de notification. Donc, notre produit permet justement de packager ces différents processus, ces différents paradigmes et de les mettre à la disposition à la fois des data scientists des experts data, mais également, bien évidemment, des métiers qui prennent entièrement partie dans la partie modélisation, justement, puisqu'ils vont pouvoir dialoguer, interroger le modèle et donc confronter le modèle à leur propre expertise métier via les possibilités d'interprétabilité et d'explicabilité de notre outil des modèles générés. Donc, très rapidement, quelques caractéristiques. Hein. Donc, une solution ouverte, ça, c'est donc, l'idée tout simplement de pouvoir s'adosser à un système de manière assez élastique finalement et assez simplifié à un système urbanisé, un système existant, avec bien évidemment quelques conseils hein, qu'on est en capacité d'apporter à nos utilisateurs. On ne va pas en fait tout remplacer, on va vraiment s'adosser. On va être aussi capable de diffuser, ça c'est très important, c'est-à-dire que lorsqu'on va améliorer des données, lorsqu'on va les préparer, les nettoyer, on va être en capacité de les diffuser dans les systèmes de stockage préexistants à l'installation de notre produit. On va éviter de tout remplacer, faciliter l'utilisation, ça je l'ai évoqué, et voilà, la possibilité d'être éthique et de proposer en fait une interprétabilité avancée, puisque au-delà de l'éthique, qui est bien évidemment très importante, on a un vrai besoin d'interprétabilité, ne serait-ce que pour la performance, puisque les modèles, on doit détecter justement dans cette recherche que vous mentionniez, Marc, de spécificité et de sensibilité, on doit être également capable de détecter des biais de surinterprétation pour éviter des futures baisses de performance. Voilà, globalement, j'en ai fini sur la présentation du produit.
Merci beaucoup, Thibaut et Seif. Et puis voilà, on comprend que votre plateforme a déjà été déployée dans de multiples contextes très différents, et donc en particulier dans le contexte et le secteur de la santé, ça fonctionne vraiment très bien. Tout peut être installé dans les environnements de santé avec voilà, le respect de toutes les réglementations médicales et cybersécurité. Vraiment aucune contre-indication pour voilà, installer cette technologie. Alors, il nous semblait important également, et je vais reprendre la main, pour d'illustrer la méthode qu'il s'agit d'utiliser, enfin une proposition de méthode qu'il s'agit d'utiliser pour voilà, monter et construire un projet autour de la data. On a vu, il y a un besoin métier, on a consacré un large temps à Stéphane et Alexandre, on a besoin d'une technologie et on sait qu'il y a plein de technologies et en particulier DataTJ répond bien. Il nous semble important également de vous présenter une approche pour mener un projet data. Et donc, on a résumé ici sur cette planche les quatre étapes importantes qui nous semblent importantes de réaliser. Donc, le premier sujet, c'est de bien cadrer le besoin. Cadrer le besoin avec les métiers, cadrer le besoin aussi techniquement, savoir si on a toutes les données, savoir si on est capable de l'adresser et puis ensuite quelque part d'utiliser l'outil. Donc chez PwC, on a l'habitude de faire cette activité de cadrage en essayant d'évaluer la maturité à la fois les maturités technologiques et la maturité des métiers pour être sûr que voilà, on a la capacité, une fois qu'on aura construit l'outil, à réellement l'utiliser. On utilise également ce qu'on appelle des séances d'idéation. Et donc là, c'est faire travailler les métiers pour qu'eux-mêmes puissent exprimer leurs besoins et imaginer les usages. On a toujours plus d'adhésion hein, quand on a fait participer les utilisateurs à la conception. Et puis donc une fois qu'on a beaucoup d'idées, voilà, il y a, comme je l'évoquais tout à l'heure, un besoin de prioriser en essayant d'établir clairement une feuille de route, quel sujet adresser en premier, en fonction des contraintes technologiques, en fonction des contraintes organisationnelles, etc. qu'on peut mettre en place. Donc on accompagne souvent nos clients dans voilà, une aide au choix de l'outil, définir les indicateurs de performance à la fois de projet et de performance de l'outil. Analyser les différents scénarios, estimer le retour sur investissement et donc les risques également que peuvent survenir pendant le projet. La deuxième phase, qui est très importante, pour nous, c'est la démonstration, la phase d'expérimentation. Il nous paraît très important. On a beau avoir toute la technologie, on a beau avoir les meilleures idées, tant qu'on n'a pas démontré qu'avec de la data, on peut faire quelque chose et que le service existera potentiellement, ça ne sert à rien de lancer un projet. Donc, cette phase de démonstration, elle fonctionne en général offline, c'est-à-dire que voilà, on travaille sur un jeu de données qu'on estime représentatif et on fait tourner les outils et on demande l'avis aux utilisateurs. Donc, on n'est pas dans les vraies conditions, on expérimente. Et là, encore une fois, on démontre l'usage est faisable, est pertinent et amènera de la valeur. Voilà, là, on a différents outils qu'on peut mettre à disposition chez PwC. Et puis, voilà, on conduit ces projets avec une méthodologie qui convient le mieux au métier, où parfois il est nécessaire voilà, de suivre les métiers dans leurs activités quotidiennes et définir avec eux voilà, quelles sont les meilleures métriques pour évaluer les usages. On procède à des tests rapides pour identifier également les contraintes qu'on peut avoir. Donc, on utilise des outils hein, qu'on appelle de « quick design », avec un certain nombre de visuels interactifs, parfois nécessaires, hein, pour modéliser la technologie. Et puis, on procède à des évaluations sur la qualité de la donnée, avec notamment des tests statistiques. La troisième étape, c'est une fois qu'on a fait la démonstration et qu'on sait qu'on a la donnée, on a la technologie, on a les usages, on a l'organisation, quelque part, on déploie. Tout est prêt pour voilà, mettre en production ces outils. Et donc là, il est important d'être rigoureux sur un planning de réalisation avec un suivi des rôles et des responsabilités. On intègre tout ça dans le SI. Alors, on l'a vu dans les cas des structures hospitalières et établissements de soins, souvent, voilà, c'est une lourde tâche qu'il faut pouvoir mesurer. On a également voilà, des questions de gouvernance autour de l'outil et ça a été largement abordé pour donner la responsabilité à la fois aux métiers et aux utilisateurs. Et puis voilà, dans le créneau, dans l'étape de déploiement aussi, on se charge de toutes ces questions de change, de formation et s'assurer qu'on a mis en place des routines d'amélioration continue. La quatrième étape qui est importante, qui est souvent négligée dans les projets, mais qui nous tient également très à cœur, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Qu'une fois qu'on a tout conçu et qu'on a déployé, il faut être certain de l'autonomie des équipes qui utilisent ces outils. Donc, on partage tout notre savoir-faire sur comment maintenir les outils, comment sécuriser les éventuels audits, comment avoir toute la traçabilité des actions autour de ces outils ou des process qui sont dédiés. Et voilà, on tâche de faire des bilans de projets où on peut illustrer la valeur concrète pour éventuellement réengager d'autres projets et voilà, comment calculer les coûts totaux, hein, les coûts de service, les coûts technologiques, et puis bien sûr les gains associés à chacun de ces usages. Alors voilà, j'étais très rapide, j'étais très concis, je vous invite à ne pas hésiter à nous contacter si vous voulez davantage de détails. Je vais laisser maintenant la parole à Christopher qui va pouvoir vous présenter rapidement quelles sont les différentes modalités de financement pour les structures hospitalières qui souhaitent voilà, développer des projets data.
Merci Marc. Donc effectivement, relativement rapidement, mais pas de problème pour continuer d'échanger par la suite. Vous avez un échelon qui est l'échelon local dont on parlait Stéphane et Alexandre, qui peut être un très bon relais sur lequel vous pourrez interagir, puisque ce sont à la fois la région et l'ARS qui ont été des sponsors assez forts pour leur permettre de développer au-delà de leurs fonds propres, puisqu'ils nous ont clairement dit qu'ils n'auraient pas pu le faire. Mais vous avez d'autres solutions, puisqu'il y a un certain nombre d'appels à projets, de financements, que ce soit au niveau national ou européen, qui sont disponibles, qui peuvent être mobilisés, qui ont des particularités un peu spécifiques, notamment ils sont souvent très orientés sur un usage, quelque chose de vraiment précis, et qu'un établissement tout seul ne peut pas adresser. Pour une raison très simple, c'est que l'objectif souvent de ces plans est de produire un produit. Un établissement ne produit pas un produit, il va l'utiliser pour améliorer sa prise en charge, comme on l'a vu tout à l'heure. Et dans ce cas-là, c'est extrêmement important de travailler de manière partenariale en consortium, en groupement, pour pouvoir justement adresser ce cadre administratif qui permet de mieux répondre et d'avoir des financements pérennes et qui vont permettre à l'établissement aussi d'être un pionnier, tout en permettant à l'industriel, aux éditeurs, de développer leurs solutions. C'est un exemple qu'on voit ici avec Chalon et Stratégie. Vous avez plein d'autres exemples. Il y a eu un énorme effet d'annonce lié à Gustave Roussy et un outil d'anatomopathologie il y a quelques temps, quelques jours, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a un certain nombre de plans. Et là, ce qui est important, c'est vraiment d'identifier des partenaires avec lesquels vous voudriez co-construire une solution et d'aller avec eux, puisque dans certains cas, c'est seul un industriel qui va fabriquer quelque chose qui peut porter, mais vos coûts à vous peuvent être intégrés dans une certaine dimension. Donc, de vraiment construire ces éléments-là avec eux et d'y aller en consortium pour répondre aux justes besoins et maximiser les chances de récupération de ces fameux financements qui vont améliorer la prise en charge et le travail de vos équipes. Voilà, Marc.
Eh bien, écoute, merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup, Christopher. Merci à tous. Voilà, on est sur la fin du créneau pile poil. Il est 17h. On n'a pas reçu beaucoup de questions sur le chat. Néanmoins, voilà, on reste à votre disposition. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un questionnaire en fin de webcast. Voilà, si vous pouvez nous donner quelques instants pour répondre à ce questionnaire. D'ici là, je tiens à remercier très chaleureusement Stéphane, Alexandre, Seif et Thibault. Merci également à Christopher. Et donc, on se retrouve bientôt.
Merci à tous.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Et au revoir.